affinités électives. Une émission proposée par Canal Académie.
Chers amis, bonjour, vous êtes bien à l'écoute de Canal Académie, merci de votre fidélité. Peut-être faites-vous partie des nombreuses générations dont l'imaginaire a été durablement marqué par le Muséum d'Histoire Naturelle. Nous sommes en effet nombreux à avoir rêvé devant les animaux extraordinaires présentés dans la célèbre Galerie de l'Évolution, peuplée d'animaux fantastiques qui au fil des millénaires ont peuplé la planète. Dinosaures, mammouths, cétacés, mollusques, cette sorte de musée grévin du monde vivant avait le don de nous faire voyager dans l'espace, mais aussi dans le temps, vers des contrées inconnues et des mondes engloutis. Dans la galerie de l'évolution, il ne nous serait pas venu un seul instant l'idée que la science pouvait désenchanter le monde. Elle était au contraire un enchantement. Un tel émerveillement mérite bien sûr que nous rendions hommage aux savants qui ont contribué à ces découvertes. Et c'est précisément ce que nous allons faire aujourd'hui en nous consacrant à la figure de Georges Cuvier. Nous fêtons aujourd'hui, cette année, le 250e anniversaire de la naissance, et sans lequel ni le muséum, ni la galerie de l'évolution ne seraient ce qu'elles sont. Georges Cuvier, en effet, en créant l'anatomie comparée, a grandement contribué à l'essor de ce que nous pourrions appeler une histoire du vivant. Pour en parler, nous avons la chance de recevoir le paléontologue Philippe Taquet, lui-même ancien directeur du Muséum d'Histoire Naturelle et président de l'Académie des Sciences, qui vient de publier chez Odile Jacob le second tome d'une trilogie consacrée à Georges Cuvier. Ce second tome est titré « Georges Cuvier, anatomie d'un naturaliste », mais bien entendu, il y a eu, elle commence par l'arrivée de Georges Cuvier à Paris, dès lors qu'il commence une véritable carrière. Auparavant, c'était un autodidacte, et monsieur, je vous remercie donc de contextualiser ce second tome en nous rappelant quels sont les débuts de Georges Cuvier, débuts d'autant plus méritants et romanesques qu'il était d'extraction modeste et une sorte d'autodidacte.
Voilà, Georges Cuvier est né en 1769, c'est d'ailleurs donc le 250e anniversaire de sa naissance. Il naît d'ailleurs à la même moment qu'un certain Bonaparte, quelques semaines avant, et quelques semaines après naîtra Humboldt, donc la naissance de trois grands noms de l'histoire. Il naît à Montbéliard, dans un pays qui est le pays de Montbéliard, qui était alors rattaché au duché du Württemberg, ce qui explique qu'il va faire des études à Stuttgart, à l'Académie Caroline, en Allemagne, dans le Württemberg. Il revient en France et pour trouver un boulot, il va être précepteur en Normandie dans une famille noble, protestante, luthérienne, puisque les gens de Montbéliard sont luthériens. Et au bord de la mer, à Caen, près de Fécamp, il va, pendant la période de la Révolution, être précepteur d'un jeune garçon, Achille d'Hérissy, mais il va en même temps découvrir les charmes de récolte au bord de la mer des animaux et il va disséquer des poissons, il va disséquer des oiseaux, le perroquet de la comtesse d'Hérissy et il va faire ses premières armes dans les sciences de la nature et c'est ce qui le passionne. Et il va découvrir qu'en effet, il a une énorme ambition, même mettant de milieu modeste, il voudrait être l'Aristote moderne de la science. Pour cela, il va donc rassembler toutes sortes de données zoologiques, disséquer les oiseaux et c'est ses premiers travaux fascinants de l'anatomie comparée. Il va disséquer le larynx des oiseaux en comparant les différentes formes et structures des larynx, en déduire les différentes fonctions, les différents champs différents des oiseaux. C'est la structure qui commande la fonction. Voilà une clé de l'anatomie comparée. Et ça, il va l'appliquer ensuite après aux fossiles. Donc, il est en Normandie, il fait des sciences de la nature et il se fait remarquer par les naturalistes parisiens professionnels. Et il va être appelé à Paris en 1795, en mars 1795, il arrive et il entre en contact avec les naturalistes du muséum. Et là commence une extraordinaire épopée d'un Rastignac qui va tout de suite vouloir conquérir Paris et les scientifiques parisiens.
Oui, je veux lire les premières lignes de votre ouvrage, première ligne du chapitre 1 donc, le 12 mars 1795, un jeune provincial originaire de Montbéliard et fils d'un obscur militaire de carrière quitte la Normandie, où il occupait un modeste emploi de précepteur. Il s'installe à Paris, bien décidé à tenter sa chance pour réaliser son rêve le plus cher, devenir naturaliste de profession. Il se nomme Georges Cuvier, il n'a que 25 ans et quelques louis en poche, mais il est ambitieux et conscient de ses capacités intellectuelles, de son habileté à dessiner et de ses connaissances en histoire naturelle. Depuis la Normandie où il vient de passer cette année, il a adressé au petit cercle des naturalistes parisiens quelques notes pour publication et quelques dessins pour démontrer la valeur de ses travaux. Et donc c'est comme ça que ça fonctionne à cette époque.
Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. Il faut s'introduire dans un milieu où on a laissé derrière, au siècle des Lumières, les cabinets de naturalistes pour devenir des naturalistes professionnels à temps plein. Buffon avait encore des forges à Montbard, alors que les naturalistes du Muséum, et grâce à la Révolution, le Muséum, le Jardin Royal, devient un musée national d'histoire naturelle avec 12 professeurs dont la tâche est entièrement consacrée aux sciences de la nature. Alors chacun se distribue les tâches. Il y a un spécialiste de la géologie, un des invertébrés comme Lamarck, un spécialiste du monde marin, des botanistes évidemment, des peintres d'histoire naturelle. Et ces 12 professeurs élisent parmi eux un directeur qui change tous les ans. Et le rêve de Cuvier, c'est d'être intégré évidemment dans ce cercle. Il va y arriver au bout de quelques années. Il va être le suppléant, de Bertrude, qui est un anatomiste âgé, fatigué, et il se fait nommer gérant et il fait les cours à sa place. Mais il n'est pas encore professeur. Par contre, son ascension est fulgurante parce que l'Institut vient d'être créé. Et ça, c'est sa chance. La Convention a créé, à la suite de l'Académie royale des sciences, qui a été supprimée à la Révolution, un nouvel institut a été créé avec 3 sections, une section littéraire, une section scientifique, une section artistique, et on élit des nouveaux membres qui ne sont pas marqués par l'ancien régime. Cuvier a 26 ans, et il est élu dès la fin de l'année de son arrivée à Paris. À l'âge de 26 ans, il est le plus jeune des membres de l'Académie de l'époque. C'est quand même assez extraordinaire. Et il va rester pendant, évidemment, toute sa carrière. Et très vite, il sera élu, au bout de quelques années, secrétaire perpétuel. Et il y restera 32 ans, ce qui est quand même une performance extraordinaire.
Vous dites, au-delà de ses qualités scientifiques, c'est aussi un homme extrêmement organisé. Peut-être est-ce dû d'ailleurs à ses études dans le monde germanique, où on l'avait formé pour être administrateur.
Voilà, c'est ce que j'ai montré dans le tome 1. Les études reçues à Stuttgart ont été très bénéfiques. C'était un organisateur. Ensuite, il avait fait du droit administratif, de l'organisation des forêts, tout ça. Donc il est meilleur qu'un certain nombre de ses confrères qui sont un peu poètes sur les bords. Par exemple, Geoffroy Saint-Hilaire est extrêmement sympathique et attachant, mais c'est un peu un poète. Et donc très vite, ils se lient ensemble, tous les deux, ils vont publier ensemble, mais très vite, Cuvier va prendre la commande des opérations.
Il faut peut-être préciser qui est Geoffroy Saint-Hilaire.
Alors Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, lui, est originaire d'Étampes, et c'est le naturaliste qui est déjà professeur au muséum quand Cuvier arrive, et qui n'a jamais disséqué d'animaux, et qui est impressionné par le savoir de Cuvier, et il contribue d'ailleurs à la venue de Cuvier à Paris. Donc ils vont se mettre à travailler ensemble. Mais ils vont faire par exemple une note sur la classification des mammifères, et le texte publié dit « Nous avons fait ceci, nous classons les animaux comme cela », et au milieu du texte édité, c'est « je », c'est Cuvier qui prend la plume et qui rédige le reste de l'article. Ils vont rester amis très longtemps, le livre publie en particulier toutes les lettres passionné, désespéré d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire, qui est parti en Égypte pour la campagne d'Égypte avec Bonaparte, alors que Cuvier prudemment restait à Paris en se disant « ma carrière ira plus vite si je reste sur place ». Et Geoffroy est désespéré d'être enseveli dans les sables de l'Égypte, et il a du mal à rentrer puisqu'ils sont prisonniers presque à cause de la destruction de la flotte au désastre d'Aboukir. Et donc les lettres de Geoffroy sont passionnantes parce qu'elles montrent aussi un naturaliste de terrain qui fait des découvertes formidables sur place. Ils resteront amis, puis après ils deviendront un peu rivaux, et Cuvier évidemment.
Alors ce sont des rivalités d'hommes ou d'égo, allais-je dire. Mais aussi des divergences scientifiques.
Absolument. Donc Cuvier, très stratège, va être élu à l'Académie bien plus rapidement que Geoffroy, qui devra attendre des années. Mais le débat après entre eux va prendre une mauvaise tournure. Geoffroy Saint-Hilaire est convaincu que le monde vivant, des vertébrés en particulier, a une unité de plan et qu'on peut passer d'un animal à un autre, alors que Cuvier considère que chaque animal est une économie animale fixe et que lui a fait des embranchements. Il est l'auteur de la définition d'embranchement. Dans le monde, il y a les vertébrés avec leur squelette intérieur, les arthropodes, comme les insectes, avec leur squelette extérieur, les mollusques et les radiaires, et qu'on ne peut pas passer d'un embranchement à un autre, parce que c'est incompatible au point de vue transformation des organes. Et c'est fondamental, parce que Cuvier détruit l'échelle des êtres, où on imaginait qu'on pouvait passer du microbe jusqu'à l'homme, dans un continuum. L'étape Cuvier avec les embranchements est indispensable pour que ensuite Darwin, un peu après, va mettre au contraire une filiation, mais verticale, à partir de chaque embranchement à son histoire. C'est fondamental dans l'histoire de l'anatomie comparée.
Oui, parce qu'on a, un petit peu tendance aujourd'hui à être rude avec Cuvier, à considérer qu'il s'est trompé, car il était fixiste. C'est-à-dire qu'il n'est pas, contrairement à Lamarck, qui est de la même époque,
bien
sûr,
d'ailleurs,
hein, quand même,
hein,
oui. tant de cerveaux réunis dans un même lieu et échangeant sans cesse sur des questions si fondamentales, ça donne le vertige. Mais donc, toujours est-il qu'aujourd'hui, Cuvier est mal aimé, car on considère qu'il a fait prendre, et peut-être à raison, un retard considérable à la France dans l'adoption des théories évolutionnistes ou transformistes.
C'est l'état actuel de la pensée française sur Cuvier, mais c'est un peu, ça relève un peu du cliché, parce qu'en fait, nos amis anglais et américains rendent un très très grand hommage à Cuvier parce que d'abord il a créé les embranchements et qu'en plus il a, avec son discours sur les révolutions du globe, détruit l'idée de la théologie naturelle anglaise qui avait tendance à assimiler l'histoire de la Terre avec le sel du déluge. Et Cuvier, dans son accomplissement de la création de la géohistoire, va détruire ces clichés-là. Et donc il est très admiré à l'étranger pour avoir remis en cause la théologie naturelle britannique ou anglo-saxonne. Et c'est une vision, il a été catastrophiste en effet, à l'inverse d'autres, de Lyell, le géologue anglais, qui était gradualiste. Mais on revient aujourd'hui à un certain néo-catastrophisme pour s'apercevoir qu'il n'avait pas complètement tort.
Peut-être qu'il faut définir. Je vais vous donner ma compréhension du catastrophisme,
oui.
Ensuite vous allez la corriger sans aucun
problème. Voilà.
Donc, si je comprends bien, l'idée de Cuvier, c'est qu'il y a pour chaque âge de la Terre un type d'espèce animale, qu'ensuite se produit une catastrophe, et qu'un autre type d'animal correspond à la période suivante, et ainsi de suite, selon des âges géologiques.
Vous avez parfaitement raison, et ça, il le découvre justement dans le bassin parisien, et même à Paris, puisqu'il va, dans la Crène Meudon, trouver des reptiles très anciens, qui n'existent plus aujourd'hui, comme des mosasaures, c'est-à-dire des espèces de lézards marins. Au-dessus, dans le gibbe du bassin de Paris, sous la butte Montmartre, il va trouver des animaux, des mammifères qui ressemblent à des tapirs, et enfin, dans les couches récentes des alluvions de la Seine, des ossements de mammouth. Il en déduit donc qu'on peut, grâce aux fossiles, suivre l'histoire de la vie sur Terre, donc de faire une géohistoire, et il en déduit, de deuxième conséquence, qu'entre une faune et une autre, il s'est passé un événement catastrophique et que la vie reprend après. Et c'est effectivement le catastrophisme de Cuvier.
Et donc, lui n'adhère pas aux thèses évolutionnistes parce qu'il ne voit pas les chaînons manquants entre chacune des époques, c'est ça ?
Absolument. Il faudra d'ailleurs attendre Darwin. Lamarck a pressenti la transformation des espèces. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils n'ont pas été très d'accord qu'on pouvait passer de l'un à l'autre parce que plus on se rapproche des époques récentes, plus on s'aperçoit que les faunes fossiles sont très ressemblantes aux faunes actuelles et que donc on peut imaginer ces passages. Et donc Lamarck avait raison, et on parlait de transformisme, pas d'évolution des espèces. Donc les Français ont été très bons là-dessus et Lamarck a repris les idées, Darwin a repris les idées de Lamarck, tout en rendant hommage à Cuvier, à ses travaux géologiques.
Peut-être qu'on peut lire un petit passage de la loi dite de subordination des fonctions.
Ah,
vous
oui,
permettez
alors,
de lire ce petit passage, de le commenter, parce que je pense qu'elle éclaire pas mal
bien sûr, au contraire,
à la fois son apport et ses
limites. Et Cuvier écrit très bien, c'est ce qui est très plaisant.
Chaque être organisé forme un tout, un système clos unique dans lequel toutes les parties se correspondent mutuellement et contribue à la même action définitive par action réciproque. Aucune de ces parties ne peut changer sans que les autres ne changent aussi. Et par conséquent, chacune d'elles prise séparément indique et donne les autres. Je crois que c'est grâce à cette loi énoncée
oui.
qu'en retrouvant un morceau très partiel...
Une griffe ou une dent...
Il parvenait à en déduire la quasi-totalité de la physionomie de
l'animal. Tout à fait,
exactement. Ça tient du prodige. Est-ce que vous pouvez nous expliquer?
Ça tient du prodige et Balzac, qui a été un admirateur sans condition de Cuvier, écrit « Grâce à Cuvier, on fait revivre ». C'est un des mondes disparus et dans la peau de chagrin, il y a un hommage à...
Mais si vous voulez, je peux le lire parce que c'est sous les yeux.
Ben, allez-y.
Allez-y. Et c'est un très beau texte aussi, il écrit oui. bien Balzac aussi.
Ah, oh, superbe.
Vous êtes-vous jamais lancé dans l'immensité de l'espace et du temps en lisant les œuvres géologiques de Cuvier? Emporté par son génie, avez-vous plané sur l'abîme sans bornes du passé comme soutenu par la main d'un enchanteur? Cuvier n'est-il pas le plus grand poète de notre siècle? Lord Byron a bien reproduit par des mots quelques agitations morales, mais notre immortel naturaliste a reconstruit des mondes avec des eaux blanchies, a rebâti comme Cadmus des cités avec des dents, a repeuplé 1000 forêts de tous les mystères de la zoologie avec quelques fragments de houille, a retrouvé des populations de géants dans le pied d'un mammouth. Et c'est effectivement dans la peau de chagrin.
Voilà. Et cette façon de travailler va évidemment éblouir toute l'Europe, à un point que toute l'Europe... sur une idée de Cuvier, se met à écrire à Cuvier. Il a une idée de génie, au point de vue stratégie de sa carrière, d'écrire en 1800 un prospectus financé par l'Institut de France, entre parenthèses, où il a écrit à tous les naturalistes, à toutes les sociétés savantes européennes, « Je suis en train de rédiger un grand traité sur les ossements des vertébrés disparus. Envoyez-moi les données que vous avez, des dessins, des échantillons, et en échange, je vous enverrai les volumes. » Et c'est une idée formidable de stratégie scientifique. D'ailleurs, je dirais, c'est très weberien. Max Weber, c'est utiliser un capital et le faire fructifier avec une promesse d'échange. Voilà. Eh bien, ça marche très bien. Et toute l'Europe, malgré les guerres napoléoniennes ou de la République, vont écrire à Cuvier, en français, qui plus est, et envoyer des documents. C'est un moment fabuleux dans cette période de l'histoire, mais en même temps, c'est très astucieux de la part de Cuvier.
Et dans une Europe qui est souvent en guerre.
Et dans une Europe qui est en guerre, le pauvre Adrien Quimper, qui est aux Pays-Bas, occupé par les armées françaises à l'époque.
Il faut préciser qui c'est.
Adrien Quimper, c'est un grand naturaliste, fils de Petrus Quimper, de le père qui a été un collectionneur et un anatomiste remarquable, dont Cuvier d'ailleurs va utiliser des travaux pour la description des éléphants en particulier. Et c'est Adrien, occupé, qui ne peut plus faire de recherche, qui se lamente, qui est triste, il n'a plus de moyens, et qui écrit quand même à Cuvier, en lui fournissant énormément d'informations. C'est même Adrien Quimper qui lui donne l'idée d'étudier les fossiles du gypse du bassin de Paris, un comble, pour effectivement décrire des animaux nouveaux et inconnus. Et aussi sur le fameux mosasaure de Maastricht. Et puis, même les Anglais, qui sont en guerre, vont écrire de la Royal Society. Ils vont même intervenir en faveur d'Étienne Geoffroy Saint-Hilaire pour libérer les collections qu'il a pu réaliser en Égypte. Il y a une communauté des naturalistes absolument fantastique.
Oui, mais par-delà les rivalités et les égos dont nous parlons tout à l'heure, il faut quand même effectivement souligner ce point. C'est une véritable communauté reliée avec des liens extrêmement fréquents.
Oui.
Ils s'écrivent énormément.
Voilà. Ce qui n'exclut, comme vous le dites, pas du tout les rivalités et le désir d'être meilleur que son concurrent.
Alors, toutefois, vous parliez des guerres dans les Flandres. Oui. Celles-ci ont joué un rôle... très important pour Cuvier, parce que je crois que les fameuses têtes d'éléphant qui vont lui permettre de franchir un cap terrible et de faire une bonne publicité aussi, parce que c'est un bon publiciste, oui. sur l'anatomie comparée, ce sont des têtes d'éléphant qui viennent d'Amsterdam.
Vous avez parfaitement lu l'ouvrage. Lorsque les armées vont saisir les collections de Guillaume d'Orange, le statuaire Guillaume d'Orange, ils vont amener à Paris, y compris des éléphants vivants, deux éléphants vivants, Hans et Parky, qui vont être installés à la ménagerie, et des crânes d'éléphants, en particulier un crâne d'éléphant de l'Inde, alors qu'il n'en existe pas dans les collections au muséum. Il y a un crâne de collection d'éléphants d'Afrique, Et c'est Cuvier qui, en regardant de près l'anatomie de ces crânes, va pouvoir dire « mais ce n'est pas une seule espèce unique d'éléphant, mais deux espèces distinctes, qui d'ailleurs ne peuvent pas se reproduire entre elles, mais les dents sont différentes, les crânes sont l'un est haut et bombé, l'autre est plus ramassé. » Et troisième cerise sur le gâteau, c'est de pouvoir comparer ces deux espèces d'éléphants vivants à l'espèce d'éléphant fossile, le mammouth, qu'on considérait comme une espèce normale d'éléphant, alors que c'est une espèce différente, plus proche d'ailleurs de l'éléphant d'Asie. Donc là, c'est grâce à ces saisies, je dirais, révolutionnaires, que Cuvier va s'emparer du sujet et montrer qu'il y a des espèces, deux espèces vivantes et une espèce fossile. Et ça, c'est le début de la paléontologie des vertébrés avec les arguments de l'anatomie comparée.
C'est-à-dire que, si je comprends bien, à l'époque, on pensait que les mammouths étaient pas forcément une espèce éteinte, mais qu'on n'en avait pas vu.
Voilà.
Mais qu'on aurait pu en croiser j'exagère.
Buffon pensait que c'était des éléphants d'Afrique qui avaient migré vers le nord et qui, par suite d'un changement climatique, étaient morts venant d'Afrique, mais qui étaient morts en Sibérie. Cuvier va montrer que c'est une espèce différente qui, elle, était adaptée au froid. Donc c'est un progrès par rapport à Buffon. Mais vous avez raison, oui.
Donc c'est le moment où, de l'anatomie comparée d'espèces contemporaines,
oui.
On saute le cap et on parvient à reconstituer, réimaginer aussi
des espèces totalement inconnues, éteintes. La première dont il s'occupe, c'est le fameux Megatherium, une espèce d'édentée qui vient d'Amérique du Sud. Il n'en voit que la gravure, mais il arrive à la décrire de façon si précise qu'il définit exactement à quelle espèce ou groupe appartient cet animal et il va le nommer Megatherium. Il va faire la même chose avec le Mosasaur de Maastricht, que tout le monde pensait être un poisson, un crocodile ou un dauphin, il va montrer que c'est un lézard marin. Et troisième argument, il va s'occuper d'un petit animal qui est sur une plaque de calcaire qui vient du sud de l'Allemagne, d'Eichstätt, et qui est imprimé sur les os sont aplatis, mais en regardant simplement le dessin et la gravure de ce fossile, il va montrer qu'il existait dans la nature, dans le passé, des reptiles volants, ce qui est absolument un non-sens. Là, un reptile, ça rampe sur le sol, il va montrer qu'il y a des reptiles qui volaient, et il va l'appeler le ptérodactyle. C'est l'argument très fort qui montre que la puissance de l'anatomie comparée pour interpréter le monde disparu, les mondes disparus.
Oui, car il aurait été facile d'y voir une chauve-souris, en quelque sorte.
C'est ce qu'on avait fait avant, bien sûr.
Est-ce que vous nous parlez de l'épisode un peu, je vais dire, cocasse, de l'homme du déluge?
Ah oui. C'est dans les schistes d'Öningen, en Allemagne, on récoltait des fossiles, en grand nombre, et en particulier, une espèce très étrange, d'un crâne aplati qui semblait avoir deux grandes orbites avec quatre membres. Et on l'a appelé, l'homme du déluge, par un naturaliste appelé Schweitzer. Et puis, ce crâne va être acheté, va aller aux Pays-Bas, dans un très beau Outhelers Museum. Et Cuvier, là encore, va voyager, voir ce crâne, il va démontrer qu'il s'agit d'une salamandre géante. Et là encore, c'est la puissance du raisonnement de l'anatomie comparée qui résout un problème et détruit des mythes et des fantasmagories.
Alors précisément, on sent que Cuvier est un stratège également. C'est-à-dire qu'il joue avec les idées de son temps, il pousse ses avantages scientifiques jusqu'où il peut aller, mais sans trop heurter ni telle ou telle catégorie de puissants, ni peut-être même les sentiments communs de son temps. Ce qui m'a par exemple frappé, c'est dans la façon dont il décrit son catastrophisme, avec des révolutions successives, l'usage du terme révolution. On sent que dans la société de 1795, disons, l'usage de ce terme-là,
oui,
vient en résonance avec les événements, et que une théorie géologique ou de l'histoire du vivant qui serait faite de phases successives où on balaye complètement un ancien monde qui devient englouti, c'est une forme de coup de génie publicitaire dans la façon de présenter cette théorie.
Absolument. Surtout qu'il n'a pas du tout apprécié la Révolution en tant que luthérien du pays de Montbéliard. Ce n'était pas des choses qui lui plaisaient du tout, la Révolution. Il a assisté d'ailleurs à des massacres et ça l'a beaucoup frappé. Il a été secrétaire de la commune révolutionnaire de Bec-aux-Cauchois en Normandie pendant la Révolution. Il a assisté à des tas de choses terribles et qui n'étaient pas du tout en adéquation avec sa personnalité.
Là où je ne me trompe pas, mais il assiste à un événement historique majeur.
À Paris,
l'assassinat
absolument.
D'un député au sein même de la Convention.
Absolument.
Qui font irruption, qui sont finalement chassés par la garde nationale.
Oui.
Mais de fait, l'ouvrage vaut aussi, pour ceux qui aiment l'histoire de cette période, c'est pas de révolutionnaire ou de directoire, parce que en écho à ces progrès scientifiques réalisés de façon relativement sereine, curieusement, avec simplement des problèmes de budget, mais enfin ça existe aussi en dehors des périodes révolutionnaires, tout ça se passe dans une ambiance parfois apocalyptique. C'est-à-dire qu'il est concentré sur ses travaux, mais la rue peut être à feu et à sang.
Absolument, avec aussi des assignats qui ne veulent plus rien du tout, avec des problèmes d'alimentation même. Enfin, non, c'est une période extrêmement troublée et... Cuvier s'en sort, et en fait, il sait se rendre indispensable parce qu'il a appris en Allemagne, dans ses études, à administrer les choses de façon remarquable. Très vite, l'Institut découvre que ce personnage peut être très utile. Il est capable de rédiger les comptes rendus des séances beaucoup mieux que ce qui se faisait auparavant. Il est capable d'organiser les séances, et Bonaparte, tout de suite, va repérer ce personnage, va se trouver proche de lui parce qu'il a besoin d'hommes comme cela. Et donc, Cuvier saura... se laisser attentif, il va être, Bonaparte va s'intéresser à lui et tout de suite va lui confier une tâche, une première tâche qui va être un succès, la mise en place des lycées napoléoniens. Il est envoyé pendant 3 mois en province et on a découvert récemment les lettres écrites par Cuvier à ses amis parisiens pendant son voyage. Ce sont des lettres prodigieuses qui sont inédites et qui racontent le voyage de Cuvier en province, ses jugements sur les gens, sur les préfets, sur les naturalistes, le recrutement d'enfants de 13-14 ans des écoles centrales pour les mettre dans des nouvelles universités. Et ce voyage est fascinant et reflète bien les complications de l'époque, les chemins défoncés, l'absence de pont, Cuvier a horreur de voyager, c'est pas du tout un voyageur. Et il se confie dans ses lettres qui sont extraordinairement intéressantes parce qu'il est déçu, un peu déprimé, il a des chagrins amoureux, etc. Donc on a un reflet à la fois de la science et de l'administration qui se met en place, malgré les difficultés. Et Bonaparte va profiter de cela pour ensuite l'envoyer aux Pays-Bas, en Allemagne, pour regarder les établissements d'enseignement des autres pays et essayer de voir comment on peut améliorer ceux de France. Puis plus tard, en Italie, pour mettre en place les universités impériales. Donc, il sera un très bon serviteur de l'État. Il ira jusqu'au Conseil d'État, d'ailleurs, et il viendra pair de France, chancelier de l'université, etc.
Oui, le simple terme pair de France, c'est-à-dire que cet homme qui a traversé tous les régimes.
Tous les régimes.
C'est ce que Stendhal lui rend.
Voilà. C'est ce que Stendhal lui reprochait avec une certaine ironie, en la surnommant d'ailleurs le mammouth, en disant en effet qu'il a traversé absolument tous les régimes, mais. Stendhal était bien content de venir dans son salon le vendredi soir avec Mérimée Delacroix, disons courtiser les demoiselles Cuvier qui se trouvaient au Jardin des Plantes.
Il y avait des liens familiaux même.
Oui, tout à fait. Voilà. Donc c'est un autre épisode passionnant de l'histoire de la petite société de l'époque. Oui, on est en plein cœur d'événements considérables, mais en même temps de la naissance dans les sciences. Ce que fait Cuvier pour l'anatomie, les astronomes à la même époque le font pour l'astronomie, avec des gens comme Lalande, Delambre, et puis les physiciens aussi. Volta vient à Paris présenter sa pile. C'est un événement considérable de montrer qu'une bouteille qui emmagasine l'électricité, mais lorsqu'elle est vide, on ne peut plus s'en servir, parce que la pile de Volta, elle se recharge. Et donc ça, c'est... Bonaparte est bien conscient de l'importance de cette découverte de la pile électrique de Volta. Il lui donne une médaille d'or considérable, malgré l'Italie occupée par les Français. C'est aussi le paradoxe. Voilà.
Bonaparte, d'ailleurs, enfin, je crois que Cuvier est présent à l'Institut lorsque Bonaparte y fait sa première intervention,
oui.
mais il ne peut pas l'écouter parce que lui-même fait une intervention au même moment, c'est ça ?
Voilà. Il y a un épisode qui est extraordinairement révélateur de l'état d'esprit de l'un et de l'autre. Bonaparte vient d'être élu, le 26 décembre 1797, il écrit au président de l'Institut une lettre de remerciement. Et sa lettre dit « Citoyen président, le suffrage des hommes distingués qui composent l'Institut m'honore. Je sens bien qu'avant d'être leur égal, je serai longtemps leur écolier. S'il était une manière plus expressive de leur faire connaître l'estime que j'ai pour eux, je m'en servirais. Les vraies conquêtes, les seules qui ne donnent aucun regret, sont celles que l'on fait sur l'ignorance. » Là, il va un peu loin, parce qu'on sait que finalement, il s'occupera beaucoup plus de conquêtes militaires que de conquêtes scientifiques. Voilà, et, il ajoute « L'occupation la plus honorable comme la plus utile pour les nations, c'est de contribuer à l'extension des idées humaines. » C'est merveilleux, c'est magnifique. Bon, oui, il n'appliquera pas tout à fait. Mais le Cuvier, le même jour de cette lettre et tout, lui fait un discours pour présenter son premier ouvrage magnifique qui s'appelle « Les éléments d'histoire naturelle » où il refait la classification des animaux de façon remarquable. Et il dit que finalement, il n'y a rien de plus beau que faire des sciences de la nature, ça supprime les haines et les jalousies qui existent entre les hommes. C'est un très très beau discours aussi, mais c'est du Cuvier craché. Donc oui, la lecture des textes d'abord sont très bien écrits et c'est assez fascinant. Ils révèlent bien la personnalité des gens en question. Il y a en plus l'autobiographie de Cuvier. Il raconte tous les événements de sa vie et je les ai mis par paragraphe en fonction des événements qu'il vit. Et ça, ça relève presque de la psychanalyse, parce que Cuvier parlant de lui-même, c'est aussi...
Il serait une autre idée de lui-même, mais ça peut être un moteur dans la vie aussi.
Oui, tout à fait, voilà. Donc ça, c'est passionnant. Il y a aussi Cuvier sentimental, ce qu'on ne connaît pas du tout, mais retournant dès que possible, revoir sa chère comtesse d'Hérissy en Normandie, où il va passer les vacances, faire du cheval sur la plage avec elle. Il y a un lien très fort entre cette dame dont le mari est complètement un joueur qui passe une partie de son temps en prison pour dette. Et Cuvier est chargé d'ailleurs avec de l'argent d'aller libérer le mari de la comtesse d'Hérissy. Elle est certainement amoureuse de lui. Ça ressemble à du Balzac et ça ressemble au Lys dans la Vallée.
Oui, ça ressemble beaucoup au Lys de la Vallée. Ça pourrait presque ressembler à Madame de Lafayette, antérieure. Oui. Mais ça ressemble aussi beaucoup à Lucien Leven.
Oui.
C'est-à-dire que ce sont des personnages à la Lucien Leven.
Oui, tout à fait.
Mais dans la vraie vie.
Dans la vraie vie. Et dans la vraie vie, il y a un autre épisode que j'ai découvert, et maintenant que je m'occupe de l'Institut Océanographique de Monaco, qui est très amusant. Le prince Honoré III de Monaco avait des propriétés en Normandie, près de là où Cuvier vivait. Et donc Cuvier va jouer des pièces de théâtre dans la petite société locale avec Honoré IV de Monaco, le fils du prince. Ils vont devenir amis. J'ai le titre de toutes les pièces qu'ils jouent. Cuvier peint les décors et il joue d'ailleurs des personnages tout à fait en accord avec sa personnalité. Et il va venir, quand il arrive à Paris en 1795, avec son élève, mais il va loger dans l'hôtel de Monaco, qui n'est autre que l'hôtel Matignon aujourd'hui. Donc il y a eu des liens assez curieux, amusants avec les Grimaldi.
Et puisque nous étions sur la littérature, on peut peut-être aussi citer, pour bien faire comprendre l'influence de Cuvier sur son temps, et à quel point c'était une personnalité non seulement reconnue et honorée, mais dont les idées ont infusé dans la société entière. On peut peut-être citer le cas de Flaubert, qui, si je ne me trompe pas, expliquait que pour écrire Salammbô, il s'était inspiré finalement de la méthode Cuvier, qui consiste à partir de fragments à reconstituer l'ensemble du tableau.
Voilà, et bien c'est ce qu'on fait aussi Balzac dans la Comédie humaine, qui consiste à faire une anatomie comparée de la société parisienne de son époque. Et puis Bouvard et Pécuchet, c'est aussi une critique, une satire des naturalistes très drôles de l'époque. Oui, oui, bien sûr. Non, la littérature, la vie, la révolution, le consulat, tout ça se mêle, évidemment, avec des moments de bravoure. Lorsque l'éléphant qui est à la ménagerie, Hans, le mâle, meurt en début 1802 ou 1801, et Cuvier va le disséquer pendant 40 jours. Heureusement, ça se passe en hiver, parce que l'odeur devait être épouvantable, mais il va disséquer un éléphant et faire toute la myologie, la place des muscles, la trompe du crâne. Je publie une figure qui montre qu'il est un remarquable dessinateur. Il gravait d'ailleurs un certain nombre de ses dessins lui-même. Oui, c'est aussi un grand anatomiste, mais un grand dessinateur d'anatomie.
Non, je ne me trompe pas, d'ailleurs, au début, il devait être recruté sur des talents de dessinateur, mais on considérait qu'il n'était pas assez artiste, donc c'est un autre qui l'était passé devant lui.
Oui,
mais à tort, semble-t-il.
Parce à que... tort. C'est son premier échec dont il n'a jamais parlé, d'ailleurs, mais effectivement, heureusement, il était bien meilleur que ça. Oui, c'est... Et puis, on retrouve, c'est assez moderne, la petite société responsable... naturalistes du muséum avec leurs amitiés, leurs rivalités, leurs écoles. Ça existe, je dirais même, ça existe encore aujourd'hui.
Oui, parce qu'on accuse Cuvier d'avoir truffé les institutions scientifiques françaises de partisans.
Oui.
Pour bloquer toute possibilité d'essor aux Lamarckiens et aux transformistes, y compris jusqu'après sa mort.
Vous avez parfaitement raison de mettre le doigt sur ce point. Et après sa mort, tous ses adversaires qui attendaient, qui trépignaient, par exemple pour être élus à l'Académie, se sont vengés sur les étudiants ou les élèves de Cuvier pour leur barrer la route. C'est le cas d'Alcide d'Orbigny, qui était un grand naturaliste, qui était parti en Amérique du Sud. Et en effet, et donc, ça a été une tendance, mais elle existe un peu encore aujourd'hui, d'avoir des écoles où on suit un chef d'école. Et on se rallie à toutes ces idées et on essaye d'obtenir les crédits, les moyens pour faire de la recherche. C'est assez moderne.
Oui, toute vie professionnelle, certainement une part de stratégie.
Absolument.
Mais ça peut être stimulant, ces rivalités, finalement. Est-ce que c'est stérilisant ou est-ce que c'est stimulant ?
Non, c'est très stimulant. C'est très stimulant. Aujourd'hui, les chercheurs essayent d'avoir des moyens, ce qu'on en dirait une ERC. European Research Council, une bourse à Bruxelles. Les Anglais vont partir, alors il y aura peut-être plus d'argent pour les bourses de recherche, mais c'est une compétition aussi pour publier dans les meilleures revues. C'était le cas aussi à l'époque, bien sûr. Et Cuvier va tout de suite être publié partout, traduit d'ailleurs par les Anglais, traduit par les Allemands. Il y a deux Allemands naturalistes qui se disputent l'honneur et le droit de publier Cuvier en allemand, avec quelques fautes d'ailleurs dans leur traduction. Mais cette stratégie est payante et il est connu partout, jusqu'aux États-Unis, grâce à ce qu'il écrit. Et aujourd'hui, un chercheur doit être connu parce qu'il publie. Et les prix Nobel d'aujourd'hui sont reconnus parce qu'ils ont fait des découvertes et qu'ils les ont publiées.
Parmi les œuvres publiées, derrière, je crois qu'il y a des événements relativement amusants, disons. C'est-à-dire des traductions où l'auteur prend quelques libertés pour l'adapter aux sensibilités de sa société.
Donc, tout à fait.
Je crois que c'est un Britannique.
Voilà, c'est Jameson, un Écossais, qui va traduire le discours sur les révolutions du globe. D'abord en changeant le titre. C'est « Theory of the Earth ». Ça devient une théorie de la Terre et pas du tout un discours sur la...
Oui, et... parce que révolution, ça passait en France, mais pas dans les villes britanniques.
Absolument. Et la traduction est très fautive, parce qu'il tire le texte de Cuvier vers ce qu'on appelait à l'époque en Grande-Bretagne la théologie naturelle, pour faire un concordisme entre le récit biblique et les récits de la géologie. Et alors, j'ai publié un article là-dessus à la Société de géologie de Londres, parce que le chanoine de Lafitte, qui est à Windsor... qui parlait bien le français, bien sûr, il était d'origine, écrit à Cuvier en disant « Mais vous avez écrit un discours sur les révolutions du globe, et Jameson publie votre ouvrage sous le titre « Theory of the Earth », mais ce n'est pas tout à fait le même ouvrage. Expliquez-moi quel est le fond de votre pensée, en particulier pour le déluge. » Et j'ai déniché dans les archives de Cuvier au muséum une lettre où Cuvier répond au chanoine pour donner sa position vis-à-vis de la Bible. Et c'est une lettre complètement raturé, c'est le brouillon, qui montre qu'il a pesé chaque phrase, chaque mot. Mais la lettre se termine, elle est en facsimilé dans cet ouvrage. C'est un ouvrage consacré à la géologie et à la religion, des historiens de la géologie. Ouvrage passionnant. Mais la lettre se termine de Cuvier en disant « Toute ma vie, je me suis efforcé de séparer de ce qui était ma science, de ce qui était ma foi. » C'était un homme de foi, mais il faisait bien la distinction, je dirais, aujourd'hui, entre le comment et le pourquoi.
Tout cela nous évoque finalement des tensions qui traversent encore le monde contemporain entre science et foi, et singulièrement le monde anglo-saxon.
Oui, vous ne croyez pas si bien dire. Madame Sarah Palin, qui a été candidate à un moment aux élections américaines, est persuadée, elle l'a dit, elle a écrit, que les dinosaures vivaient en même temps que les hommes, ce qui est quand même assez surprenant.
Cuvier évite la question.
Et Cuvier évite la question.
Il ne veut pas parler de l'homme.
Non.
Il ne le situe pas.
Non, justement. Mais il y a une prudence. En même temps, il ne veut pas être trop en contradiction avec sa foi. Mais il l'évite. Au moins, il ne dit pas de bêtises monumentales. Voilà.
Oui, c'est un angle mort.
Oui, si vous voulez. Oui, tout à fait.
Dans toute cette histoire du vivant, il y a quand même un grand absent. Quoi.
Bien entendu. Et l'homme fossile ne sera découvert, et ça, la preuve de son existence, que d'ailleurs par Boucher de Perthes, par des gens et des Anglais, un peu après la mort de Cuvier, effectivement. Mais Cuvier n'a pas eu la preuve matérielle de l'existence d'un homme fossile. Il a vu des squelettes, mais c'était des squelettes récents. Et donc, il n'a pas eu la preuve sous les yeux qui aurait pu le convaincre de transformation anatomique, par exemple.
Oui, parce que ça, il faut peut-être le souligner. C'est que c'est quelqu'un qui est quand même très, très empirique, en réalité. Hein. On lui fait le reproche de ne pas avoir été évolutionniste, mais finalement, c'est peut-être juste une démarche scientifique. Il voit des espèces successives, il en déduit que ce qui est vrai, c'est quand même a priori ce qu'il a sous les yeux. Il ne va pas au-delà.
Vous avez parfaitement interprété sa façon de faire et de penser. Cuvier n'aimait pas la naturphilosophie allemande qui divaguait sur les forces vitales de la nature, des choses comme ça. Il n'aimait pas du tout ça. Il connaissait bien la philosophie, Kant et tout ça. Il avait appris ça en Allemagne. Mais non, le fait pour lui, c'était ça qui comptait. Et donc les idées un peu, pas farfelues, mais étranges de Geoffroy sur un animal qu'on peut retourner à l'envers et faire passer d'un insecte à un vertébré, ça lui semblait complètement farfelu et absolument inadmissible. Et donc oui, il est très près des faits, de par son éducation germanique, certainement. Les anatomistes allemands étaient très forts et très bons, mais les faits d'abord, pas des divagations philosophiques.
Votre livre s'appelle « Anatomie d'un naturaliste », et je dois dire, il est construit de la même façon. Hein.
Oui, c'est un peu un clin d'œil. Oui, les faits d'abord. C'est exactement ça. C'est une façon qu'ont d'ailleurs, je me suis inspiré un peu des auteurs anglo-saxons, des Anglais, qui ont rédigé les biographies de Darwin ou de Lyell, le grand géologue, qui sont très factuels et qui suivent chronologiquement le développement des idées, des événements, des publications, des manuscrits, et très précisément avec toutes les références, sans vouloir faire des interprétations farfelues. Non, ce sont les faits qui comptent. Vous avez parfaitement mis le doigt sur la question.
Chaque chapitre concerne quelques mois.
Oui.
Par exemple, chapitre 1, mars 1795, avril 1795, et ensuite successivement comme cela. Alors, on pourrait croire que c'est rébarbatif, pas du tout, parce que précisément la période est passionnante, et parce que vous avez trouvé un nombre incroyable de pièces. Par
voilà,
exemple.
Et que ce
c'est un vrai travail d'historien. C'est
voilà,
pas,
voilà.
C'est pas d'autres livres qui sont vos sources, ce sont les documents d'époque.
Voilà, et se mêlent dans justement tous ces documents la science, la vie, les passions, les amours, les événements politiques, tout ça est complètement imbriqué comme la vie aujourd'hui. C'est un peu ça, c'est vrai. C'est un parti pris, mais j'ai pu le faire et j'ai eu des bonnes réactions des historiens professionnels qui montrent que, oui, ça se passe, c'est une façon de traiter les choses. Et je sais, déjà par leurs réactions, que mes amis anglais et américains qui s'occupent d'histoire des sciences apprécie beaucoup cette façon de faire.
Alors le tome 2 se termine en avril 1803. Oui. Nous avons évoqué un certain nombre d'éléments qui sont postérieurs, mais cela signifie d'une part qu'il y aura certainement un tome 3, voire peut-être
oui.
des tomes ultérieurs en fonction des pièces, mais surtout je voudrais que vous nous évoquiez la façon dont l'ouvrage se clôt, parce que...
Oui, c'est terminé le tome...
Elle éclaire beaucoup de choses.
Le tome 2, Cuvier revient d'une tournée de 3 mois en province, à Marseille, Nice, Montpellier, Toulouse et Bordeaux, pour mettre en place les lycées napoléoniens, et il écrit dans son autobiographie, ce qu'il écrit bien d'ailleurs, vous allez voir, « À mon retour de Bordeaux, je trouvais les citoyens consuls, dont le premier consul, Bonaparte, bien étrangers aux formes républicaines. » Lors de ma première visite à Saint-Cloud, je fus frappé de toutes les apparences d'une cour. J'imaginais que le premier consul s'informerait de ma mission. Il ne m'en dit pas un mot et ne parla que d'histoire naturelle. Cependant, il me nomma de la Légion d'honneur dès la première formation. Me parler d'histoire naturelle était au reste me parler d'une étude qui m'était devenue plus chère que jamais. Depuis que j'avais vu les hommes et les affaires, c'est que je m'étais convaincu de ce dont je n'avais pu me faire encore une idée malgré tout ce que j'en avais lu dans les moralistes, je veux dire, convaincu de l'égoïsme et de la plate vanité qui conduisent la plupart de ceux qui conduisent les autres. Et je termine par une affirmation. Cette dernière affirmation de Cuvier n'empêchera pas Cuvier de succomber ultérieurement au charme de la célébrité et aux sirènes du pouvoir.
Ce qui introduit très bien le tome à paraître dans les années à venir. Mais voilà. il ne faut pas mettre les tomes dans le désordre. Donc moi, ce que je suggère à nos auditeurs, c'est de se plonger dans le premier tome, Georges Cuvier, Naissance d'un génie.
Oui.
Avant d'attaquer celui-ci, Anatomie d'un naturaliste, il y a à la fois le portrait d'un grand savant, celui d'une époque, et comme nous venons de le voir, peut-être de la nature humaine très fixiste. Merci beaucoup, monsieur, d'avoir accepté notre invitation. Et je reprécise, parce que je viens d'omettre cette précision, c'est bien chez Odile Jacob dans la collection Histoire. Merci beaucoup.
Merci à vous. Thank you.